Place Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité politique de France Info à 8h30, France Info la radio, France Info la télé aussi sur le canal 27 avec Neyla Latrousse à mes côtés pour poser la première question à notre invité Marlène Schiappa. Bonjour Marlène.
Bonjour.
Schiappa, et c'est à vous Neyla.
Bonjour Marlène Schiappa, l'enquête Bonjour. Sur la mort de Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, qui s'oriente vers la piste accidentelle. Il a été heurté lundi par un véhicule dont il voulait verbaliser les occupants. Marlène Schiappa, quel enseignement vous tirez de ce drame ?
Plusieurs choses. D'abord, là, je crois qu'on est pour l'instant dans le temps du deuil en ce qui concerne ses proches. Et donc, d'abord, adresser nos condoléances à sa famille, à ses proches et à tous les habitants de Signes qui perdent leur mère. Et puis ensuite, il y a l'enquête. Et l'enquête, elle doit suivre son cours. Et comme vous le savez, en tant que membre du gouvernement, je peux pas commenter une enquête qui est en cours. Mais c'est évidemment tragique. Et c'était une grande tristesse, je crois, pour beaucoup de gens d'apprendre la mort de ce maire dans l'exercice de ses fonctions, dans des conditions pareilles.
En tout cas, ce drame a été l'occasion pour la députée de Paris que vous connaissez En Marche, la députée d'En Marche Olivia Grégoire, de faire un mea culpa. On l'écoute, c'était sur RTL.
On a énormément d'élus locaux dont on parle très peu, dont on parle pas assez, qui font un job formidable. Et d'ailleurs, ça fait partie, et je l'ai déjà dit, des erreurs que le gouvernement et certainement les parlementaires nouveaux que nous étions depuis 2017. On a parfois donné le sentiment que on leur accordait pas l'écoute.
Vous partagez ce constat, Marlène Schiappa ?
Pas forcément. J'aime beaucoup Olivia Grégoire. On était ensemble hier après-midi au FIT, au foyer qui héberge des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et je suis très souvent d'accord avec Olivia Grégoire. Là, j'aurais une petite nuance, mais je crois qu'elle parle surtout pour la majorité parlementaire et pour son ressenti. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis élue locale au Mans. J'ai eu la chance d'apprendre la politique avec le sénateur maire du Mans, Jean-Claude Boulard, qui est décédé depuis. Et donc, je connais l'engagement de ces élus locaux. Et je crois qu'effectivement, c'est un métier, c'est pas un métier d'ailleurs, c'est un mandat élu local qui est extrêmement difficile et on doit davantage le soutenir. Et Sébastien Lecornu, qui est ministre en charge notamment de cette question, est en train de travailler sur une loi qui permette de mieux sécuriser les parcours des élus et des maires. C'est très difficile d'être maire, vous avez une responsabilité parfois même pénale qui est engagée et vous avez assez peu de rémunération, de moyens et de reconnaissance, il faut bien le dire.
Effectivement, Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales, qui prépare un projet de loi pour la rentrée. En parallèle, le Sénat lance aussi sa propre concertation auprès des maires sur les menaces auxquelles ils peuvent être soumis. Est-ce que, pour vous, la République protège suffisamment ses élus ?
C'est une question qui mérite d'être posée, en tout cas, je crois. Et la question de l'engagement politique, de façon générale, interroge également. Vous savez, si il n'y a que 16% des maires en France qui sont des femmes, ma conviction personnelle, c'est que c'est aussi parce que ce parcours est assez peu sécurisé. Vous ne savez pas, vous allez vers l'incertitude, finalement, vous allez être élu. Ensuite, vous ne savez pas comment vous pourrez retrouver du travail dans le secteur privé après en être sorti pendant plusieurs années quand vous avez exercé votre mandat. Donc, je trouve ça plutôt intéressant que le Sénat lance cette concertation en parallèle du travail mené par le ministre Sébastien Lecornu.
Vous trouvez, comment trouvez-vous en fait ce qui se passe avec les permanences aussi de pas mal d'élus de la majorité, de députés, de ministres parfois, qui sont invectivés ou des permanences un peu saccagées? Vous trouvez que ça participe de ce climat?
Bien sûr, c'est absolument, je trouve ça scandaleux. En fait, je suis assez frappée par le niveau de violence et le climat de violence et de menaces qui existe. Je crois qu'effectivement, c'est une attaque non seulement contre les élus, mais aussi contre la démocratie. La démocratie, c'est respecter les gens qui sont élus par le peuple, c'est aussi respecter les institutions. Et le débat, il se fait dans les chambres, à l'Assemblée nationale, au Sénat.
Des tags sur un mur, ça fait un peu partie, ça peut faire partie aussi de la démocratie, non?
C'est pas, non,
pour vous, non?
D'abord, non, parce que d'abord, je crois qu'on a un enjeu, et là, je me permets de faire un lien avec le sujet précédent, de mon point de vue. Un enjeu majeur de notre époque, c'est le respect des règles. On n'arrête pas de parler de l'expression de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on ne respecte pas des règles communes. Ce qui fait qu'une société tient, c'est qu'ensemble, on se donne des règles, ces règles ce sont les lois, et qu'ensemble, on choisit de respecter ces lois pour pouvoir respecter notre liberté et la liberté des gens, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc taguer, dégrader, menacer, incendier des permanences de députés ou des domiciles de députés, de ministres, etc., je crois que c'est totalement inacceptable, c'est en dehors de la loi et c'est en dehors de ce qui doit nous permettre de faire société.
Le ministre de l'Intérieur a qualifié d'attentat le sac d'une permanence, est-ce que le terme était approprié ?
C'est le terme qu'il a décidé de choisir et donc il ne me semble pas du tout inapproprié, non ?
Alors, il y a un an, Marlène Schiappa, l'entrée en vigueur de la loi sur les violences sexistes et sexuelles, 713 contraventions dressées depuis à ce jour dans la rue ou les transports, c'est un peu plus de deux par jour. C'est symbolique ou c'est utile ?
C'est les deux. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, quand on a débattu cette loi au Parlement, il y a beaucoup de gens qui disaient « ce sera une loi inapplicable, vous aurez une ou deux verbalisations en un an, pas plus ». Comme en Belgique, il y a eu très peu de condamnations. Et en fait, on voit quelques mois après l'entrée en vigueur de cette loi qu'en fait, c'est une loi utile et qu'il y a eu plus de 700 verbalisations en flagrant délit de ce harcèlement de rue.
Donc, mais cette c'est utile pourquoi ? Sur les comportements ?
Tout à fait. L'idée, c'est d'abaisser une forme de seuil de tolérance de notre société à des faits qui précédemment n'étaient pas illégaux et qui maintenant le sont. Le fait de suivre, d'invectiver, de menacer, d'humilier des femmes dans l'espace public, tout ce qui s'appelle le harcèlement de rue et qu'on a appelé outrage sexuel dans la loi. Maintenant, ce n'est plus permis par la loi. Et dans des centaines de cas, cela a été verbalisé par les forces de l'ordre.
Vous évoquez le flagrant délit. Est-ce qu'il faut faire évoluer le dispositif, justement, pour que davantage de contraventions soient dressées, pour que ces comportements soient davantage pénalisés ?
Je crois qu'il faut aller plus loin, effectivement, parce que 700, c'est beaucoup pour quelques mois, mais ce n'est pas encore assez, puisque les phénomènes de harcèlement de rue, on sait qu'ils sont massifs. Il y a des enquêtes qui ont été faites, bien avant que je sois au gouvernement, qui indiquaient que entre 95 et 100% des femmes disent avoir déjà été exposées à ce harcèlement, soit dans la rue, soit dans les transports en commun.
Comment on fait évoluer le dispositif ?
Il faut qu'on le renforce. Nous, on continue la formation des policiers. J'étais par exemple en région PACA il y a quelques semaines, autour du préfet des Bouches-du-Rhône qui a organisé une formation des forces de l'ordre. Il faut sensibiliser davantage. Et puis notre but, c'est pas d'avoir le plus d'amendes possible. Notre but, c'est qu'il y ait le moins de harcèlement de rue possible. Donc plus on éduque, moins on a de harcèlement de rue au final. On est aussi concentré là-dessus.
Merci Marlène Schiappa. Vous restez bien sûr avec nous, on va dans un instant aborder la deuxième partie de cette interview politique. Mais d'abord à 8h40, le rappel de l'info, c'est avec Édouard Marguet.
Le feu n'est toujours pas éteint en Ardèche, mais il est fixé, il ne progresse plus. 250 pompiers sont restés mobilisés toute la nuit, selon la préfecture. Une reconnaissance aérienne est en train d'être menée pour déterminer la suite des opérations. Les orages peuvent encore être violents dans 6 départements du centre-est. Ils sont toujours en vigilance orange. Il y a eu quelques dégâts en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les voies ferrées. La circulation des TER est coupée entre Montbrison et le Puy-en-Velay au moins jusqu'à midi. Une décision aujourd'hui pour une jeune qui a reconnu vouloir commettre un attentat à la ceinture explosive. Une jeune de 21 ans interpellée quand elle en avait 18 à Clermont-Ferrand. Le parquet a requis 10 ans de prison dans cette affaire, 8 à l'encontre de sa coprévenue. Sa visite fait polémique aux États-Unis. Donald Trump est attendu à El Paso, au Texas, où a eu lieu une des 2 fusillades le week-end dernier. Certains estiment que ses discours ont pu influencer l'auteur du massacre de samedi. Le président américain ira ensuite à Dayton, dans l'Ohio. 31 personnes sont mortes dans ces 2 tueries.
L'invité politique de France Info est Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et Neyla Latrousse pour la suite de cette interview.
On va évoquer les chiffres des féminicides. 85 femmes mortes sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-conjoint depuis le début de l'année. 121 l'an dernier. Les gouvernements passent, les lois évoluent, les drames perdurent. Est-ce que le problème est d'ordre culturel, éducatif ?
Je crois que le problème est global, il est systémique en fait de mon point de vue. Vous avez raison de le rappeler, les chiffres, ils restent d'une régularité glaçante. À 20 féminicides près, on est sur le même chiffre depuis qu'il y a des chiffres officiels, donc depuis les années 2010, quelle que soit la volonté politique des gouvernements successifs. Il y a eu une légère baisse en 2018 par rapport à 2017, mais qui n'est pas du tout suffisante pour qu'on puisse se targuer de quoi que ce soit. Donc moi je crois qu'effectivement il y a un changement culturel à opérer. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'organiser un Grenelle des violences conjugales qui aura lieu le 3-9-19 en écho au numéro du 39-19 qui est le numéro d'appel d'urgence pour les femmes victimes de violences. Je crois qu'effectivement, il faut que maintenant les témoins également agissent. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui entendent des cris, il y a des gens qui voient des femmes avec des coups. Il faut que les témoins parlent, interviennent et nous aident à sauver les vies de ces femmes.
Marlène Schiappa, vous parlez justement de ce Grenelle des violences conjugales organisé le 3 septembre. La porte-parole d'Oser le féminisme, Raphaël Rémy Leleu, était notre invitée ce matin à la radio sur France Info. Elle a un message à vous faire passer. Elle regrette en tout cas un manque de concertation en amont de ce rendez-vous. On l'écoute.
C'est le problème de méthode du gouvernement et particulièrement du secrétariat d'État aux droits des femmes. Nous ne sommes pas écoutés. Alors nous verrons ce qu'il en est lors du Grenelle des violences dont nous n'avons toujours pas la méthode, le programme. C'est quand même un énorme problème pour préparer ce qui devrait être une négociation.
Vous avez une réponse à lui dire?
Oui, enfin, pardon de le dire, mais c'est absolument faux. En fait, au contraire, on travaille depuis des mois, main dans la main, avec les associations qui sont les associations qui accueillent des femmes victimes de violences. J'étais encore hier au FIT Une Femme, Un Toit avec Marie Servetti, qui est membre de plusieurs collectifs féministes. Nous avons reçu à 4 reprises les associations type le Centre d'information des droits des femmes et des familles, le Planning familial, le 3919, la Fédération nationale Solidarité Femmes. Donc, au contraire, ce Grenelle des violences conjugales, c'était une demande des associations qui accueillent les femmes victimes de violences conjugales. Nous avons répondu à leur demande, nous l'organisons. Le calendrier, il est connu, je l'ai donné à de nombreuses reprises.
Le calendrier, c'est le contenu, surtout, visiblement, de ce Grenelle.
Le contenu, il sera déterminé lors du Grenelle, c'est le principe. Un Grenelle, si vous voulez, c'est un processus. Ça veut dire qu'il est lancé le 3-9-19. Les services du Premier ministre adressent les invitations à partir de la deuxième quinzaine d'août, donc là, la semaine prochaine, dans 10-15 jours. Ensuite, le 3-9-19, il est lancé et il se poursuit jusqu'au 25 novembre. Et il y a un mail qui existe qui est grenelle@pm.gouv.fr. Toutes les associations qui n'ont pas encore été identifiées et qui n'ont pas été sollicitées peuvent bien évidemment concourir, participer et venir. Mais je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de concertation alors que c'est l'inverse. Genre là, on est là le 7 août et encore hier, nous avions un travail de concertation pour préparer ce Grenelle des violences conjugales. Donc si les associations qui sont politisées déplorent de façon politique le manque de entre guillemets, concertation du gouvernement, eh bien, qu'elle se joigne à nous. Moi, je n'ai jamais reçu de demande de rendez-vous sur le Grenelle des violences conjugales de la part de Madame Rémy Lelot. Qu'elle fasse une demande, je la recevrai avec grand plaisir.
Eh bien, voilà, le message est passé, Naïla.
On sait aussi que Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a évoqué début juillet une enquête pour vérifier où les défaillances sont advenues dans les violences faites aux femmes. Est-ce qu'on sait quand est-ce que les résultats de cette enquête sont attendus?
Oui, justement, ça va faire partie des choses qui seront mises sur la table lors du Grenelle des violences conjugales. Si vous voulez, quand on regarde un peu dans le fond de ce qui s'est passé pour chaque féminicide, on voit très clairement des dysfonctionnements ou des dispositifs de politique publique qui existent mais qui n'ont pas été mis en œuvre.
Au niveau des dépôts de plaintes?
Absolument, au niveau des dépôts de plaintes, tout à fait.
De la protection, peut-être.
Bien
aussi.
Sûr, moi j'ai reçu par exemple toutes les parties prenantes et les proches de Madame Julie Douib, qui est une femme qui a été tuée il y a quelques mois en Corse. J'ai reçu les associations, les élus locaux, ses proches, et on s'aperçoit que cette dame, elle avait déposé des plaintes plusieurs fois, que son père aussi avait déposé des plaintes pour elle, et que ces plaintes, elles n'ont pas été suivies des faits. Et ça, c'est insupportable pour nous, alors que nous disons aux femmes qu'il faut qu'elles parlent, que lorsqu'elles parlent, les plaintes ne sont pas suivies des faits. Donc ça, ça sera mis sur la table du Grenelle des violences conjugales le 3 septembre. On va regarder quelle est la différence entre l'impulsion politique qui est donnée par le gouvernement et la réalité de ce qui se produit sur le terrain pour mettre chacun face à ses responsabilités.
Alors Marlène Schiappa, la rentrée, c'est aussi ce remaniement qui est évoqué. Est-ce que vous soutenez le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui fait face à un flot de critiques assez important depuis l'affaire Steve à Nantes et dont on demande beaucoup la démission un peu partout sur l'échiquier politique. Vous le soutenez?
D'abord, je crois qu'il faut un peu prendre de la hauteur et constater que les demandes de démission du ministre de l'Intérieur, c'est quelque chose d'assez classique et qui est une rhétorique de l'opposition politique, quelle qu'elle soit au demeurant, et qui se succède. Je ne suis pas forcément à l'aise avec le principe d'ailleurs des demandes de démission systématique et pavlovienne de façon générale. Je soutiens évidemment totalement l'action de Christophe Castaner. Il mène une action complètement résolue pour faire en sorte de maintenir la sécurité dans ce pays, dans un contexte qui est extrêmement difficile. Et donc je pense qu'au contraire, on peut saluer, en tout cas moi je salue l'action du ministre de l'Intérieur qui est résolue et ferme sur un certain nombre de sujets.
Pour vous, il n'est pas mis sous tutelle par Matignon, par exemple? On a vu le Premier ministre en première ligne sur l'affaire Steve Maya.
Mais le Premier ministre s'engage et c'est normal. C'est son rôle, c'est le chef du gouvernement.
Mais ce n'est pas un désaveu.
Non, mais le Premier ministre a engagé aussi en septembre pour le Grenelle des violences conjugales, puisqu'il l'organise à Matignon et qu'il le conclura. Je crois que c'est le rôle du Premier ministre et Édouard Philippe le fait très bien. Et ça n'est pas du tout ce que vous évoquez. Au contraire, je crois que c'est aussi une marque de confiance vis-à-vis du ministre de l'Intérieur d'être avec lui sur des sujets qui peuvent être difficiles. Et en ce qui concerne la mort de Steve, puisqu'on l'appelle maintenant par son prénom, je voudrais dire qu'avant d'être un sujet politique, c'est un sujet personnel. Moi, je suis toujours très mal à l'aise avec les différentes instrumentalisations. Je pense qu'on doit penser avant tout à ses proches, à sa famille. Il y a un jeune homme qui est mort, c'est tragique. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en faire une instrumentalisation politique. Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de sa mort, mais sans instrumentalisation de mon point de vue.
Marlène Schiappa, est-ce que François de Rugy peut revenir au sein du gouvernement après avoir été blanchi par le rapport parlementaire?
Alors, il ne voudra pas échapper que je suis pas président de la République ni Premier ministre.
Absolument.
Et
absolument.
Donc je ne compose pas le gouvernement, mais je n'ai pas la possibilité de nommer ou de dénommer les membres du gouvernement.
Vous avez la possibilité de soutenir ou d'approuver ou...
Non, je ne me permets pas de faire ce genre de choses. Je suis assez respectueuse des prérogatives des uns et des autres. Le gouvernement est composé sur proposition du Premier ministre par le président de la République. Donc c'est leur choix et leur liberté exclusive.
Bon, très bien.
Vous n'avez pas de soutien donc à François Grégy pour l'instant.
Ni de soutien ni d'attaque. En fait, ce n'est pas mon rôle de dire tiens, un tel ou un tel serait bien au gouvernement sur le plateau de France Info à 8h48.
Vous évoquiez il y a quelques instants l'appel à candidature lancé aux femmes pour les municipales. Effectivement, 16% d'entre elles sont maires, 40% dans les conseils municipaux. Vous avez co-signé une tribune. Est-ce qu'elle a trouvé un écho ?
Un petit peu, mais pas assez pour être sincère. On est en vraie difficulté, hein, je vous l'avoue, à La République En Marche, parce qu'on n'a pas les candidatures nécessaires. La femme la plus difficile à investir, c'est la femme qui n'a pas candidaté. Et nous n'avons pas assez de candidatures de femmes pour les municipales. Très
vous
souvent,
relancez un appel ?
Mais absolument, je relance un appel. Je crois qu'il faut le faire sans cesse pour que les femmes candidatent et pour qu'elles puissent ensuite être maires. On n'a que 16% des maires en France qui sont des femmes. C'est un chiffre qui est ridiculement bas. On a une Assemblée nationale maintenant qui est quasiment paritaire parce que le président de la République a voulu investir 50% de femmes sur des circonscriptions gagnables il y a maintenant quelques années pour les élections législatives. Il serait temps qu'on ait aussi des maires qui soient des femmes.
La République En Marche a aussi annoncé un dispositif de mentorat pour la rentrée pour les femmes candidates. Concrètement, et réponse courte, en quoi consistera ce mentorat ?
C'est un programme qui s'appelle Toute politique, qui permettra de soutenir les femmes face aux questions parfois spécifiques qu'elles peuvent avoir sur à la fois le financement,
la formation,
aussi l'exposition, la formation, le rapport aux médias, le rapport aux critiques aussi, parce que quand on est une femme politique, on est critiquée sur des aspects de notre vie, personnelle, physique, familiale, etc. Et les hommes politiques n'ont pas à faire face à ce type de critiques, donc je crois que ça nécessite un accompagnement particulier en effet.
Merci Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, d'avoir été l'invitée politique de France Info aujourd'hui. Merci aussi à vous Neila Latrousse.